Je vais vous parler ce matin sur. On va lire un passage sur Lazare, la résurrection de Lazare. Mais on ne va pas se concentrer sur Lazare, on va se concentrer sur Marthe. Parce que souvent, quand on parle de la résurrection de Lazare, c'est pour booster notre foi. Et après, normalement, à la fin, on va prier pour un mort et pour qu'il ressuscite. Ok? C'est pas ce que j'avais sur le cœur. Mais si vous avez l'occasion, faites-le. Si Dieu vous met ça à cœur, il faut le faire. Parce que notre foi ne doit pas être limitée. Je vais inviter Caro à s'approcher, si elle peut lire le passage. Donc c'est dans Jean chapitre 11, versets 1 à 46.
Il y avait un homme malade, c'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie était celle qui versa du parfum sur les pieds du Seigneur et qui les essuya avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus: Seigneur, celui que tu aimes est malade. À cette nouvelle, Jésus dit: Cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur, et Lazare. Quand il eut appris que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Puis il dit aux disciples: Retournons en Judée. Les disciples lui dirent: Maître, tout récemment, les Juifs cherchaient à te lapider et tu retournes là-bas? Jésus répondit: N'y a-t-il pas 12 heures de jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit: Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. Les disciples lui dirent: Seigneur, s'il s'est endormi, il sera guéri. En fait, Jésus avait parlé de la mort de Lazare, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Jésus leur dit alors ouvertement: Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Là-dessus, Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples: Allons-y, nous aussi, afin de mourir avec lui. À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était depuis 4 jours déjà dans le tombeau. Béthanie était près de Jérusalem, à moins de 3 kilomètres. Et beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus: Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Cependant, même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit: Ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, et qu'il ressuscitera lors de la résurrection le dernier jour. Jésus lui dit: C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit: Oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Après avoir dit cela, elle alla appeler secrètement sa sœur Marie en lui disant: Le maître est ici et te demande. À ces mots, Marie se leva sans attendre et alla vers lui. Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient la virent se lever soudain et sortir. Ils la suivirent en disant: Elle va au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où était Jésus. Quand elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit: Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. En la voyant pleurer, elle et les Juifs venus avec elle, Jésus fut profondément indigné et bouleversé. Il dit: Où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-on, viens et tu verras. Jésus pleura. Les Juifs dirent alors: Voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent: Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi faire en sorte que cet homme ne meure pas? Jésus, de nouveau profondément indigné, se rendit au tombeau. C'était une grotte, une pierre fermée à l'entrée. Jésus dit: Enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit: Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit: Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils enlevèrent donc la pierre de l'endroit où le mort avait été déposé. Jésus leva alors les yeux et dit: Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Détachez-le et laissez-le s'en aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et qui virent ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur racontèrent ce que Jésus avait fait.
Amen. Merci, mon cœur. Amen. C'est un passage très intéressant, qui est assez long, mais on y voit vraiment beaucoup de détails également. Donc, on ne va pas tout détailler, mais je pense que c'est important également de voir quelques points sur le contexte également. Donc, Lazare, qui est mort, à la base, le prénom de Lazare, en fait, c'est un abrégé de Eléazar, qui signifie « Dieu est le secours ». Et on voit que Dieu, Jésus, vient comme un secours dans cette situation-là. On voit également que Marthe et Marie informent Jésus du décès de Lazare. Et il y a une situation qui est assez impressionnante, c'est que Jésus, il n'y va pas tout de suite. Aujourd'hui, si on a un ami qui décède, je pense que le premier réflexe, c'est si on peut aller le voir le plus vite possible, on va le faire. Et là, on voit clairement que Jésus ne le fait pas. Et c'est un acte très important, en fait. Sur le coup, moi, les premières fois où je lisais ça, je lisais, je me disais, mais pourquoi il n'y va pas tout de suite? J'avais clairement l'impression qu'il n'en avait rien à faire. Mais en fait, ce n'était pas du tout ça. C'est parce qu'en fait, Jésus était déjà dans une mission et il ne pouvait pas quitter la mission qu'il avait reçue de Dieu. Si Dieu nous donne une direction, peu importe ce qui se passe autour, il faut rester à son écoute. Mais il y avait quelque chose qui était important, c'était que Jésus savait très bien quel était le temps de son Père pour œuvrer et pour apporter un miracle. C'est pour ça qu'il prend son temps. Nous, on est dans une société d'empressement, donc on se serait dépêché. Et il y a aussi quelque chose, c'est que au bout des 2 jours passés, après que Jésus ait appris le décès de Lazare, tout d'un coup, il dit aux disciples, on retourne en Judée. Et là, les disciples, ils commencent à paniquer. Parce qu'en fait, si on regarde qu'est-ce qui s'est passé au chapitre 10, juste avant, il y avait une conversation très intéressante où les Juifs demandaient si Jésus était le Fils de Dieu. Et Jésus, de manière très simple, il a dit quelque chose de très important, c'est qu'il a dit, je suis la résurrection et la vie. C'est ce qui se passe juste avant les événements de Lazare. Jésus affirme ça. Je suis la résurrection et la vie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc je passe tous les détails du chapitre 10, sinon on en a pour 2 prédications. Ils ont voulu lapider Jésus. Donc il est parti. Et il doit revenir en Judée pour une notion de quelqu'un qui est mort. Et ensuite, on voit la conversation qui se passe un petit peu avec les disciples. Au verset 8, les disciples disent « Rabbi, tout dernièrement, les Juifs cherchaient à te lapider et tu retournes là-bas » Et on voit que Jésus répond au verset 9 « N'y a-t-il pas 12 heures de jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. » Cette notion des 12 heures n'est pas juste celle du soleil et du travail, du jour ou autre, c'est aussi la notion du cheminement de sa venue sur la terre. Jésus répond que tant qu'il marche à la lumière de son Père, en accomplissant sa volonté, il est en sécurité. C'est pour cela la notion du temps. Tant qu'il est dans la volonté du Père, il est dans la sécurité. La notion du temps de Dieu n'est pas la même que nous. Il est en sécurité, sa journée touche peut-être à sa fin, l'ombre se profile déjà à l'horizon, mais il lui faut terminer son travail, tant qu'il fait encore jour avant que vienne l'heure des ténèbres. Ensuite, on voit que Jésus explique aux disciples que Lazare s'est endormi. Donc à l'époque, c'était aussi une façon de dire que la personne est morte. Mais les disciples, eux, pensent, il est endormi, il va guérir et ça va aller. Et au bout d'un moment, Jésus, il commence à être un peu plus franc et lui dit d'une autre manière également, Lazare est mort. On voit verset 17. À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était mort depuis 4 jours et qu'il était dans le tombeau. Alors, à cette époque, il faut savoir également que pour certaines personnes, en fait, l'âme du défunt pouvait revenir dans les 3 jours. Passé 4, il n'y avait plus de miracle possible. Donc, voilà. Donc, il faut aussi comprendre un petit peu le contexte. En fait, ce qui est fort dans ce passage, c'est qu'on voit en fait que Jésus, il pousse le miracle jusqu'au bout. Même moi, en général, quand je priais pour des personnes mortes et je priais dans mon cœur pour qu'elles puissent ressusciter, je me disais au bout de 3 jours, j'arrête. Parce qu'en fait, nous, dans notre tête, on a cette notion, si Jésus il est ressuscité au bout de 3 jours, il n'y a pas de souci, on peut prier pendant 3 jours. Maintenant, on peut se dire, si Lazare est ressuscité au bout de 4 jours, c'est possible également. Mais regardons bien quelque chose qui est important. On voit que Jésus agit dans la volonté de son Père. S'il n'y avait pas eu la volonté de son Père, il n'aurait pas été prié pour la résurrection de Lazare. Mais autant tout s'est déclenché quand Jésus a dit « Je suis la résurrection et la vie », il y a quelque chose, donc ils ont voulu le tuer, il a accompli le miracle, mais il s'est passé quelque chose d'autre. Une fois qu'il a accompli le miracle, c'est là où la persécution a été jusqu'au bout. C'est à cause de ce miracle-là. Parce que là, il ne pouvait plus rien faire. Non seulement il annonçait « Je suis la résurrection et la vie », il pouvait dire « Vas-y, parle toujours. Les miracles, ok, mais personne ne peut ressusciter. » Il a accompli la résurrection. Et là, ils étaient déstabilisés, les pharisiens. Je vous invite à lire les chapitres après chez vous. Vous allez voir. Mais tout s'est déchaîné à ce moment-là. Et on le voit à la fin du passage où ils disent qu'il y avait également quelques juifs qui allaient le trahir. Donc tout est parti de là après. Alors ici, on voit au passage, donc également au verset 18 à 23, on va reprendre juste ce passage-là. Béthanie était près de Jérusalem, à moins de 3 kilomètres, et beaucoup de juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Donc ça, c'était la coutume, mais ça reste toujours aujourd'hui. On va toujours voir nos proches quand il y a quelqu'un qui est décédé. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Cependant, même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Donc, l'approche de Marthe, c'est une approche de foi. Et certains, parfois, l'interprètent également à la fois comme de la foi et un petit peu un reproche. Alors moi, je ne m'avancerai pas là-dedans. Mais en tout cas, je vous partage un petit peu qu'est-ce que j'ai trouvé dans toutes mes recherches par rapport à cela. Et on voit que Jésus lui répond, ton frère ressuscitera. Et on voit que Marthe n'a pas le même angle de vue que Jésus. Elle lui dit, je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera lors de la résurrection le dernier jour. Donc ce qu'elle dit, c'est une vérité. Mais elle le dit, mais pas dans le même angle de vue que Jésus a. Et Jésus lui dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Il l'affirme de nouveau dans ce passage-là. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt, et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Donc là, il remet la foi en question de Marthe. Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, qui devait venir dans ce monde. Ayant dit cela, elle s'en alla et appela Marie, sa sœur, en secret, disant « Le maître est ici et il t'appelle. » Marie, on voit qu'au verset 29, que Marie va vers Jésus. Et de nouveau, au passage 32, Marie donc, quand elle arriva au lieu où Jésus était, l'ayant vu, tomba à ses pieds en lui disant « Seigneur, Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Donc là, ici, par contre, il n'y a pas le même discours que Marthe. Donc là, c'est vrai qu'on pourrait y penser peut-être soit un reproche, soit également un acte de foi. Également. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les deux avaient vraiment la foi. Que si avant qu'il meure, Jésus aurait été là, Lazare n'aurait pas été mort. Et un passage important pour qu'on puisse comprendre ensuite l'approche de Marthe également, c'est au verset 33. En la voyant pleurer, elle et les Juifs venus avec elle, Jésus fut profondément indigné et bouleversé. Alors on voit dans ce passage que Jésus a des émotions. Il est vrai qu'il est dit qu'il faut pleurer avec ceux qui pleurent. Et je me suis posé la question, mais pourquoi il est indigné? C'est normal de pleurer. Et pareil, en fait, il y a plusieurs choses qui sont possibles en fait. Il y a eu plusieurs interprétations par rapport à cela. En fait, dans tout ce que j'ai pu trouver, c'est que Jésus pouvait être indigné également par rapport au fait que la mort peut procurer de la tristesse chez l'homme. Mais aussi du fait qu'ils sont en présence de celui qui peut ressusciter. Jésus dit sans cesse, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Toutes ces choses-là. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Et il voit que les gens pleurent. Et en fait, lui, Jésus, c'est pour ça qu'on n'a pas toujours le même angle de vue que Dieu. Mais en fait, lui, il sait qu'il va ressusciter, mais aussi de manière physique. Et du coup, pour lui, c'est difficile. Enfin, pour lui, il se sent vraiment indigné. En disant, mais on le voit même avec ses disciples quand il dit, mais combien de fois je vais devoir vous le répéter? Quand est-ce que vous allez commencer à croire? Et là, c'est la même chose. Et il y a d'autres... Dans d'autres recherches, j'ai fait vraiment beaucoup de recherches par rapport à ça parce que c'est très technique comme passage. Mais en fait, ils interprètent même également que le fait que Jésus savait qu'il y avait des gens qui allaient le trahir malgré la résurrection, ça pouvait aussi l'indigner. Donc c'est vraiment quelque chose de très particulier, ce passage, cette situation. Et c'est là où on voit qu'on n'aurait pas pu être à la place de Jésus. C'est pas possible. Parce que humainement parlant, déjà, il n'y a pas grand-chose dans notre vie qui peut nous mettre un petit peu les nerfs, comme on dit. Mais là, je pense que Jésus devait vraiment, vraiment, vraiment être éprouvé également. On voit que Jésus demande où l'avait mis. Et on voit que Jésus, il pleure, parce que ça lui fait mal aussi, parce que c'était son ami également. Jésus pleure avec ceux qui pleurent. Et ensuite, on voit que les gens disent, mais c'est pas lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle. Il n'aurait pas pu agir avant. Et nous, parfois, on aimerait bien que Jésus agisse avant. On se dit, Seigneur, tu n'aurais pas pu agir avant. Mais pareil, il y a aussi une notion de temps. Notre temps à nous, c'est pas celui de Dieu. Et on voit que de nouveau, Jésus est indigné. Et le verset 19, c'est là le passage le plus important pour aujourd'hui. On voit que Jésus dit à Marthe, ôte la pierre. Et Marthe dit quelque chose d'important, c'est « mais il sent déjà ». Donc autant elle fait une déclaration de foi, et autant elle dit « non Seigneur, mais il sent déjà ». J'ai invité l'équipe de louanges à s'approcher, s'il vous plaît. Ouais, elle dit « il sent déjà ». Jésus lui dit de rouler la pierre, d'ouvrir la pierre du tombeau. Et quand j'ai lu ce passage, pareil, en faisant des recherches également, Dieu il nous ouvre aussi les yeux parfois. Et c'est vrai que dans nos vies personnelles, Dieu nous demande aussi de rouler la pierre. Rouler la pierre de nos cœurs. Et quand on roule la pierre de nos cœurs, parfois on n'aime pas voir ce qu'il y a dans nos cœurs. Désolé de l'expression, mais parfois ça pue. Parfois ça sent pas bon. Parfois il y a des choses qu'on aimerait ne pas voir du tout. Si vous pouvez commencer à jouer également. Et on voit ici qu'il y a plusieurs aspects. Parce que la vue de la mort également fait peur. Donc je pense pas que Marthe avait forcément envie de revoir également son frère avec les tissus autour de lui. Et dans nos cœurs, parfois, on n'a pas envie de revoir ce qui nous a blessés. On n'a pas envie de revoir ce qui a pu nous laisser pour mort. On n'a pas envie de revoir nos tombeaux. Parce que parfois, nos tombeaux ne sont peut-être pas encore vides, mais ils sont peut-être pleins également. Et là, on voit qu'il y a une conversation entre Marthe et Jésus. Elle n'est pas longue, elle est vraiment courte. Mais ça suffit. Roule la pierre. Roule la pierre. Ça sent pas bon. Et parfois, c'est difficile. J'ai ramené une petite image, je sais que vous aimez bien les images. J'avais pas prévu, mais ce matin, j'ai eu un flash. Rouler la pierre, franchement, ça fait pas plaisir. Mais quand on sait ce qu'il y a derrière, c'est agréable. Et en fait, on voit quelque chose, c'est que Marthe, elle dit, le corps est déjà décomposé. Ça sent pas bon. Et des fois, nous, on est là et on sait qu'on est comme ça, en fait. C'est déjà décomposé. Franchement, je la tiens à peine. Je suis sûr que si je l'ouvre, c'est une catastrophe. Mais je pense que ça vaut le coup de l'ouvrir quand même. Parce que rouler la pierre, c'est ça. Donc on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Ça peut être bien, ça peut être pas terrible. Franchement, elle a une belle apparence dans l'ensemble. Franchement, ceux qui aiment bien les bananes bien... Et elle sent fort, hein, franchement. Est-ce que vous voulez sentir ? Ça me dérange pas. Mais voilà, mais on voit franchement là, moi j'ai pas envie de la manger. J'ai pas envie de la manger. Et regardez, il y a une chose aussi, c'est que la banane, je l'ai pas épluchée, enfin elle s'est pas épluchée toute seule. Et on voit que Jésus il dit aussi, allez retirer les bandeaux. Et parfois dans nos vies, on a besoin aussi. Autant on peut rouler notre propre pierre, mais des fois on a aussi besoin que quelqu'un nous aide à retirer les bandages qui nous lient à la mort. Et on voit ensuite que Jésus accomplit le miracle, il se passe quelque chose et les gens sont surpris. Jésus dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? Et Jésus fait également quelque chose de fort. Bon, on m'a demandé un petit clin d'œil à Astérix. Je me suis dit, bon, allez, tant qu'à faire. Donc, autant après le tombeau, il est vide, autant on a fait du nettoyage dans nos cœurs. Mais la Bible dit clairement qu'on ne doit pas rester vide. Et tout ce que Jésus a accompli, il l'a accompli de sa vie et de son sang. Ensuite, il a commencé à verser son sang pour nous. Donc moi je te dis, si aujourd'hui tu crois, tu peux vivre. Aujourd'hui si tu oses rouler la pierre, tu peux vivre. Aujourd'hui si tu oses même regarder ce qui sent pas bon, ce qui est pas beau dans ta vie, dans ton cœur. On a tous des programmes là. J'en ai parlé cette semaine à plein d'amis. J'ai dit franchement, j'ai cette semaine, il y a eu des trucs, je devenais fou. Je disais, je devenais fou. Et je disais, Seigneur, franchement, pardonne-moi, aide-moi. C'est pas facile. C'est pas facile. Et je sais qu'on doit atteindre la perfection, mais être parfait, il n'y a que Jésus qui l'est et qui nous purifie par son sang. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Donc on a le sang de Jésus et on n'aura jamais soif. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Jésus, il nous remplit. Il nous remplit. Il nous remplit. Normalement, ça déborde, mais on va pas le jouer le jeu. Sinon, je pense que Bruno, il sera pas content. Et là, il dit, c'est un peu clair encore, là. Allez, je te purifie de nouveau. Il n'y a pas de souci pour Jésus. Et ensuite, hop. Là, on peut se dire, même si quelqu'un veut nous enfermer dans un tombeau après, ok, mais c'est Jésus qui vit en moi. Même si on nous enferme, peu importe où, c'est Jésus qui vit en moi. Et après, on peut se rafraîchir. C'est Jésus qui vit en moi. Ouh, puissant Jésus. Mais c'est Jésus qui vit en moi. Je vous invite à vous lever. Il y avait un chant qui m'avait vraiment touché, c'était « Tu fonds à la mer ». Ce chant-là, « Tu fonds à la mer ». Jésus, il est là et il fond aussi nos tombeaux. On va prier pendant que Geoffrey continue un petit peu à jouer avec l'équipe de louanges. Et j'aimerais vraiment nous interpeller, parce qu'on est tous dans le même bateau. Mais si vous avez besoin qu'on prie pour vous, levez la main ou avancez-vous et on va prier pour vous. Parce qu'il y a des situations où il y a les bandages et on a besoin que le bandage soit retiré. Et si ça sent pas bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Est-ce que tu crois que ton Dieu peut ressusciter les choses mortes dans ta vie? Si vous avez des Lazares morts, regardez que Jésus peut tout faire. Peu importe le nombre de temps, peu importe le nombre d'années, peu importe le nombre d'années, c'est le diable qui te fait croire qu'il y a un temps limité. Mais il n'y a pas de temps avec Jésus. On a un Dieu glorieux et puissant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Oh, quel Dieu grand tu es. Seigneur, nous voulons louer ton nom, Seigneur. Que tu viennes parler à nos cœurs, Seigneur. Que tu viennes, Seigneur, au plus profond de nos âmes, Seigneur. Guérir, Seigneur, ce qui a besoin d'être guéri, Seigneur. Que tu viennes ressusciter, Seigneur, ce qui a été tué, Seigneur. Que ce soit nos rêves, Seigneur. Que ce soit nos espoirs, Père. Viens nous sauver, Seigneur, encore et encore. Tu es celui qui vit et nous voulons croire en toi. Nous espérons en toi, Seigneur. Même quand on voit que tout n'est pas parfait, Seigneur, on espère en toi, Seigneur. Quand on roule la pierre et qu'on voit que c'est pas beau, Seigneur, on espère en toi, Seigneur. Peu importe le nombre d'années, Seigneur, peu importe le nombre de jours, Seigneur, tu viens au moment où tu l'as décidé, Seigneur. Viens guérir nos cœurs. Viens ressusciter là où c'est mort, Seigneur. Viens ressusciter là où il y a eu la mort, Seigneur. Là où on nous a mis des bandages, Seigneur. Là où on nous a dit que c'était plus possible. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Même si la situation nous montre l'inverse, tout est possible. Si vous souhaitez qu'on prie pour vous, levez la main, on va prier pour vous pendant que l'équipe de louange nous accompagne.
esclave de la peur.